certains l'aiment chaud, pour les ordinateurs aussi.
Ah bah il fait chaud, oui, il fait chaud.
Plus que chaud, oui, moi je dirais. Ça a du méga, là, on n'en peut plus. Là. Installez la clim, s'il vous plaît, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour Emmyman, bonjour Doudou, bonjour Matt Bell, bonjour Flo.
Bonjour Chichi.
Salut, salut tout le monde.
Et bonjour les auditeurs et auditrices de nous écouter sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, quelle chaleur, mon ami Roud. Il paraît que tu nous as trouvé un sujet estival.
Tout à fait, tout à fait.
Je crois qu'on est descendu un peu trop dans la Méditerranée.
Ah bon.
À défaut,
alors,
on a des super coins.
Nous allons parler de canicule latine.
La canicule latine.
Eh bien, c'est bien.
Eh bien oui, avant de calculer le sujet du jour, on va calculer l'actu.
On va actualité.
Ah oui.
Actualiser l'actu latine.
Mais oui.
C'est
mais
pas
oui
grave.
Mon bon ami.
Non mais c'est qu'il fait trop chaud, c'est plus possible.
Alors on peut plus, on est en train de fondre. La BO du jeu Alone in the Dark est enfin disponible officiellement.
Ouais.
Sorti en 1992 sur.
Mais c'était le siècle dernier ça.
Oui en effet.
C'est de l'actu.
Mais oui c'est de l'actu.
Ah bon.
Alone in the Dark est un jeu d'horreur survivaliste développé par Infogram.
Ah, juste le monde normal avec des IA, c'est ça?
C'est ça. Et considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers du genre, 34 ans après. Le jeu, donc la bande-son, bénéficie enfin d'une sortie officielle. Oh, ça me rappelle d'une. Son compositeur, Philippe Vacher, la présente comme une restauration plutôt qu'un remake avec des pistes, des versions disquettes et CD du jeu, dont certains issus des compositions FM Adlib Sunblaster d'origine remasterisée pour l'occasion. À écouter.
Adlib, c'est le refrain. La Commission européenne refuse de sanctuariser les jeux vidéo. Suite à la pétition Stop the String Games, la Commission européenne ne peut pas proposer d'obligation légale de garder les jeux vidéo jouables après qu'ils ont cessé d'être fournis commercialement. Ah oui, donc pour ficher des gens avec leur âge et tout ça, c'est possible. Mais pour juste faire respecter le domaine public, il n'y a plus personne.
Eh ben non.
L'UE rend obligatoire les batteries remplaçables en 2027. L'utilisateur devra pouvoir enfin remplacer lui-même les batteries avec des outils simples ou des outils spécialisés mais proposés par le fabricant gratuitement. Et les batteries devront être disponibles pour au moins 5 ans, excepté pour les ordinateurs et tablettes. Et pour lesquels il existe déjà une obligation de 7 ans de disponibilité des pièces. Oui, bah comment ça se fait que c'est pas déjà le cas? Parce que oui, hein,
bah
pour
oui,
moi, pour ma petite aventure,
en fait.
Pour
c'est
ma
pas
petite
de la
aventure, j'ai voulu changer les batteries de mon MacBook. Eh bien, je peux m'asseoir dessus parce que si je veux des batteries originales, il faudrait que je sois revendeur. Donc je peux pas les acheter moi directement.
Ah.
C'est quoi ce problème là?
Bah bref. Ouais,
alors, l'Union européenne renonce à imposer le logiciel libre et choisit l'encouragement.
Allez, vas-y.
Le tech sovereignty package devait donner la priorité au logiciel libre, comme levier industriel en Europe et pour calmer le big tech. Qui contrôlait plus de 70% du cloud européen, ça avait été annoncé partout en fanfare.
Oui, sauf que
la Commission a reculé sur le point vraiment important, l'obligation de l'adopter dans le secteur public. L'April déplore ce revirement, d'autant que la Commission s'est mise à faire la promotion de Wheel Social, un réseau sorti de nulle part, basé visiblement sur AdProton, que semble-t-il n'est plus open source, alors que Mastodon est là depuis 10 ans.
Et d'ailleurs, Mastodon se lance dans les newsletters. La prochaine version propose une fonction encore en test permettant de souscrire aux publications des membres du réseau directement par mail sans avoir à se créer de compte sur les plateformes comme une newsletter. Et même pour les gens qui n'ont pas beaucoup
classe,
internet, ça peut être bien aussi. Comme ça, ils ont
classe,
plein de news. Hein,
ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont déjà du mal avec le mail. Alors si en plus, il faut leur expliquer, il faut créer un compte là, mais en fait, tu peux parler à d'autres.
Tout à fait. Ma foi. Eh bien, c'est tout pour l'actu.
Ouais.
Eh bien, avant de prendre ce coup de chaud, allons écouter une petite chiptune.
Ouais.
Allez, et on reviendra au bord du canal.
Oh, peu cher.
Of Man. Donc c'était la musique à gagner, la première place à la compétition musique chiptune à la révision. Ah oui, comme quoi,
ah
j'ai pas fait que les fonds de tiroir.
Ah oui, mais il y a du bon, il y a du Hoffman.
J'ai aussi fait du Hoffman, okay. Eh bien oui. Oh, eh bien moi je ne sais pas vous, mais nous, on a chaud à Radio Méga.
Ça va.
Ah ouais,
Il s'en fout, il a raté une émission, il en a enregistré que deux.
Donc du coup, bah, ça tombe sur sur Rododou qui va nous parler de la canicule.
Tu veux rencontrer les processeurs les plus hot de ta région ? Envoie CPU au 8086.
Ouf.
Non, c'est pas ça.
00006.
Bon, j'ai entendu ça dans un transistor.
Ah, ouf.
Canicule Inside.
Oui.
Souvenir des années 80, quand les microprocesseurs chauffaient peu. Quand les premières chaleurs arrivent, nos ordinateurs modernes se mettent à souffler comme des sèche-cheveux. Pourtant, il fut un temps où la question du refroidissement ne préoccupait pratiquement personne. Nos vieux ordinateurs des années 80 consommaient souvent seulement quelques watts au niveau du processeur.
Beaucoup plus au régulateur qui lui chauffait un peu.
Oui,
trop,
aujourd'hui, avec un M1, quand même, tu ne souffles pas parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Ah,
les premiers PC Amiga, Atari ST fonctionnaient généralement sans dissipateur thermique, encore moins sans ventilateur dédié. Les processeurs chauffaient, bien sûr, mais dans des proportions qui nous sembleraient dérisoires aujourd'hui. Les premiers dissipateurs commencent à apparaître timidement avec certains 486 rapides, notamment les DX50 et surtout le DX266. Il s'agissait souvent d'un simple bloc d'aluminium de quelques centimètres carrés, sans ventilateur, destiné à réduire les températures. Tu veux dire quelque chose, Cécile ?
Mais oui, alors comment tu fais quand tu allumes aujourd'hui, avec ces températures qu'on a aujourd'hui, ces vieux ordinateurs ? Est-ce qu'ils souffrent pas, justement ?
Je vais parler plus spécifiquement du DX266, puisqu'à l'époque, je sais qu'il y avait eu des mesures, et c'est vraiment le premier CPU où ils se sont demandé est-ce qu'on met un ventirad ou pas. Parce que le DX266 avait été livré sur plein de bécanes avec rien du tout. Direct, comme ça. Et ça avait été mesuré à un peu plus de 120 degrés. Et puis, il n'y avait pas tous les mécanismes pour ralentir le processeur quand il n'est pas utilisé.
Ça chauffe, ça crame.
Ça chauffait tout le temps. Et on commençait à avoir les premiers cas de brûlure. Et puis, 120 degrés, il y a des risques d'incendie. Mais il y a eu vraiment beaucoup de DX266 livrés sans. Et à ce moment-là, il y en a qui se sont dit, bon, on va mettre un petit radiateur en alu dessus. Il y en a qui ont commencé à mettre des ventilateurs aussi. Et mine de rien, ça faisait perdre quasiment 50 degrés au processeur, quoi. C'est-à-dire qu'on passait, alors juste avec le ventirad, on passait de 120 à 80, 90 degrés. Et puis avec le ventilo, tu pouvais descendre à 50, quoi.
Alors le ventilat, c'est un radiateur, un petit truc en métal avec des petites ailettes, c'est ça ?
Alors le radiateur, c'est comme un radiateur qu'on a chez nous. Il y a des ailettes qui servent à augmenter la surface de contact. Le ventilateur, c'est un ventilateur. Et le ventirad, c'est la contraction ventilateur plus radiateur.
C'est un mot valise.
Okay.
Alors moi, je me rappelle, j'avais un 486 DX33 dont je vous ai déjà parlé, qui ne chauffait pas énormément, mais suffisamment pour que je retire rapidement mon doigt lorsque je le touchais en fonctionnement.
Mais pourquoi tu touches tes processeurs ?
Mais parce qu'on a envie de toucher, c'est comme ça. Voilà. Et donc,
de toucher tes processeurs.
Sa température de fonctionnement était parfaitement normale. Personne n'aurait imaginé à l'époque installer un radiateur pesant plus d'un kilogramme sur un processeur. Voilà, donc le premier ventilateur, en fait, n'était pas sur le processeur. Les premiers ventilateurs, on les trouvait dans l'alimentation électrique.
Ah oui.
Puisque elle, contrairement au processeur, évacuait déjà plus d'une centaine de watts. Leur rôle principal, voilà, c'était d'évacuer la chaleur produite par les transformateurs, les régulateurs, les composants de puissance. Donc celle qu'il y avait avec mon 486, elle dépassait 100 watts. C'était une petite alimentation. Le ventilateur de l'alimentation créait aussi un léger courant d'air dans le boîtier, ce qui suffisait en général à refroidir l'ensemble de la machine. Voilà, donc le processeur profitait indirectement du ventilateur de l'alimentation. Arrivent ensuite les Pentium et les premiers overclocking. Alors déjà, les Pentium, ils tournent beaucoup plus vite, on monte beaucoup en fréquence. Et donc avec les Pentium, le refroidissement devient soudain un vrai sujet. Alors pour autant, mon premier Pentium, qui était un Pentium 90, n'en avait pas lui non plus. Mais je commençais à avoir des problèmes, car j'avais acheté moi un Pentium 90 pour environ 2000 francs. Et en changeant un jumper sur la carte mère, un petit bitonio destiné à faire contact...
Mais qu'est-ce que ça fait truc si on le met en bas ?
Entre deux broches. Et ben je déplaçais un jumper et je passais mon Pentium de 90 MHz, je le passais à 120 MHz et j'avais économisé 1000 balles quand même. Alors le gain était spectaculaire en performance, je gagnais 30% de performance.
Génial.
Par contre, il chauffait beaucoup plus et je me rappelle que je pouvais le mettre à 120 MHz, je pouvais le faire l'hiver, mais l'été, je pouvais avoir des plantages. Donc là, je leur descendais à 100 MHz. Voilà, donc... Et pour le refroidir quand même, puisque il n'y avait pas encore de solution de colle thermique, tout ça, c'était déjà difficile à avoir. Il fallait aller sur Paris dans les boutiques. Donc moi,
à Surcouf.
Donc moi, j'ouvrais ma tour et j'avais pris un ventilateur de salon. Je faisais souffler directement sur la carte mère. Ouais. Voilà, c'était rudimentaire, mais en fait moins bruyant finalement que les premiers ventilateurs de CPU qui étaient très petits et du coup qui tournaient très vite pour compenser leur taille, tout en produisant un bruit aigu particulièrement désagréable.
C'était arrivé sur des Mac et tout, ils faisaient des petits ventilateurs un peu partout pour essayer, ça se faisait un bout.
Ah ouais, non, c'était une horreur.
Est-ce qu'on a le droit à une imitation du ventilateur aigu
Non,
on n'a pas le droit.
Il y a le CSA qui va intervenir.
Et donc, une dizaine d'années plus tard, il y a eu vraiment un gros changement parce que bah déjà les gens ils en avaient vraiment marre de tout ce barouf que faisaient les ordinateurs et surtout les ordinateurs se transformaient tous en centre multimédia. Donc quand tu regardes un film avec ton ordi et que t'entends...
On a eu l'imitation, voilà.
Que t'entends la soufflerie, donc... sont apparus alors pas mal d'acteurs sur le marché. Alors je pense à Noise Blocker, hein, comme son nom l'indique, le bloqueur de bruit. Il y avait aussi Noctua, Enermax, voilà, il y a différentes marques qui se sont spécialisées dans les ventilateurs silencieux. Et donc, à ce moment-là, les processeurs arrivent à 50 watts, 100 watts de dissipation thermique. Donc, on développe des radiateurs de plus en plus imposants, équipés de heat pipe ou caloduc en français, des tubes contenant un liquide et optimisés pour déplacer la chaleur. Donc,
wow.
Pour donner une image de ces radiateurs, ces tubes métalliques partaient d'une plaque. Et ça ressemblait un peu au pot d'échappement chromé d'un dragster miniature, tu vois.
En cuivre.
C'est la classe, hein.
En cuivre ou en aluminium, hein. Fallait que vraiment que ça transporte la chaleur. Voilà, donc leur rôle, c'est de transporter la chaleur depuis le processeur vers une vaste surface de contact, donc faite avec des ailettes, hein, donc là c'est le radiateur. J'avais fini par adopter l'un de ces énormes modèles qui faisait 900 grammes. Il était tellement efficace que son ventilateur ne se mettait en marche que rarement, même lorsque le processeur fonctionnait à pleine charge. Après, on a eu les débuts intrépides du water cooling.
Ouais.
Voilà, donc à cette même époque apparaissent les premiers systèmes de refroidissement liquide plus ou moins artisanaux. Alors, les pionniers du water cooling faisaient preuve d'une créativité remarquable. On voyait des montages utilisant des radiateurs de chauffage automobile. Je me rappelle que certains affectionnaient tout particulièrement les radiateurs Ford et faisaient le tour des casses automobiles pour en trouver en bon état. Il y avait aussi des pompes d'aquarium, des tuyaux récupérés dans les magasins de bricolage et parfois même des échangeurs de chaleur réutilisant la gouttière de son pavillon avec un pommeau de douche au sommet, façon tour de refroidissement de centrale nucléaire. Et mine de rien, c'est super efficace hein, parce qu'au prix d'un peu d'eau évaporée en permanence, on gagne 15 degrés rapport à la température extérieure. Donc on pouvait vraiment... refroidir son ordi en dessous de la température ambiante. Donc l'objectif était simple, évacuer davantage de chaleur tout en réduisant le bruit. Alors personnellement, j'ai jamais franchi le pas du water cooling. Hein. Il fallait avoir une confiance absolue dans ses raccords.
Mais oui, parce que sinon tu pouvais avoir des fuites.
Alors, mon premier PC, il y avait un kit et c'était en plastoc. Donc le tuyau, comme il se tordait, ça a pété l'embout en plastoc. Et ça a tout coulé au fond de la tour. Mais c'est pas grave, la carte mère, elle était du coup à la verticale. Donc ça a inondé le bas de ma tour.
Oui.
Et après, le deuxième kit, effectivement, il y avait des fixations qui étaient beaucoup plus intéressantes en métal et qui tenaient bien.
C'est pas pire que les derniers G5 chez Apple, hein, où c'était du refroidissement liquide, mais c'était le début.
Oui, oui.
Et du coup, ça fuyait, et puis ça corrodait, et puis l'alimentation était dessous. Donc c'était très joyeux.
Voilà,
oui, mais c'était amazing.
Eh ben, vous me confortez dans ce choix de ne jamais avoir franchi le pas. Voilà. Alors aujourd'hui, on a des limites physiques hein, qui sont difficiles à contourner. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, les fréquences des processeurs n'augmentent plus aussi vite. Les fabricants se heurtent désormais à ce qu'on appelle souvent le mur thermique. Donc, plus un composant est puissant, plus il produit de chaleur. Et à partir d'un certain point, évacuer cette chaleur devient extraordinairement compliqué. Les processeurs modernes plafonnent généralement entre 100 et 200 watts de dissipation thermique selon les modèles. Certains processeurs haut de gamme dépassent même ponctuellement ces valeurs lorsqu'ils utilisent leur mécanisme de boost. Ce qui rend la chose impossible avec ces puissances à dissiper est que la surface des processeurs est toujours la même. On reste toujours sur quelque chose qui fait quelques centimètres carrés. Donc il y a un moment...
Mais vous aviez aussi des fous, comme les Woodtower qui avaient préparé un PC spécial dans un bain d'huile pour le refroidir.
Alors, je crois que le bain d'huile, c'était pour cuire des frites, mais c'était un fake. Hein. C'était pour se moquer des Pentium 2 qui chauffaient énormément. Ouais. Et donc, il y a un fake qui avait circulé avec un bain d'huile.
Il avait vraiment plongé son ordinateur dans un bac avec de l'huile.
Avec de l'huile de tournesol,
oui. Oui, c'est ça.
Ouais, mais je crois que c'était cheaté. En fait.
Okay. Et l'azote liquide dans tout ça, on en parle.
Alors, dans la même idée, pas juste qu'à l'azote liquide, mais je vous rajouterai le lien, il y a le projet Eunuque, où en fait, ils utilisaient, je crois, de la binouze pour... Enfin, les canettes, machin, ils avaient foutu la carte mère dans le congélo et tout. Mais je pense que c'était pour rire.
Sacrée astuce.
Mais il y a des photos marrantes.
Alors, aujourd'hui, les cartes graphiques sont devenues les véritables chauffages du PC. Depuis une vingtaine d'années, elles disposent systématiquement de leur propre système de refroidissement. Et pour cause, elles consomment souvent davantage d'énergie qu'un processeur. Les modèles les plus puissants dépassent aujourd'hui largement les 400 watts, certaines approchant même les 600 watts dans des configurations extrêmes. Alors, 600 watts, c'est un... petit radiateur, hein, déjà.
Combien
hein,
oui.
600 watts.
Alors, il existe des versions fanless, c'est-à-dire dépourvues de ventilateurs et totalement silencieuses. Ça existe toujours, mais bon, ça, là, sont des cartes graphiques réservées à des usages modestes, hein, type bureautique.
Et cuire de l'omelette par-dessus, parce que là...
Donc, le retour du ménage de printemps. Voilà, donc, conséquence directe, nos ordinateurs brassent désormais des quantités impressionnantes d'air. On a des ventilateurs de boîtiers, des ventilateurs de processeurs, des ventilateurs de cartes graphiques, on a des ventilateurs d'alimentation. Un PC moderne peut facilement contenir 6 à 10 ventilateurs.
Et même, des fois, tu peux acheter un support où tu mets ton ordinateur dessus, qui est lui-même ventilé aussi.
Ouais. Voilà. C'est inception.
C'est ça.
Et qui dit circulation d'air dit accumulation de poussière. Donc, avant les premières chaleurs, il est donc judicieux d'ouvrir son ordinateur et de nettoyer les radiateurs. Alors, une bombe d'air sec permet d'évacuer la poussière accumulée entre les ailettes. Faites l'opération sur votre balcon, hein, à l'extérieur de chez vous, si possible. Vous serez surpris de ce qui en sort hein, et vous n'avez pas envie de respirer ça. Hein. C'est de la poussière très, très fine, très, très mince. Non, ne faites pas ça.
Après, l'aspirateur, ça marche relativement bien.
Alors, un pinceau souple ou un aspirateur peuvent également être utiles. En revanche, prenez soin d'immobiliser les ventilateurs pendant le nettoyage. Hein, n'oubliez pas qu'un moteur électrique peut aussi fonctionner comme un générateur. Et faire tourner un ventilateur à grande vitesse avec un jet d'air peut produire une tension électrique indésirable sur son connecteur. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un grand risque, mais évitons les mauvaises surprises.
J'ai jamais eu trop de soucis, mais j'ai entendu des choses. Après, si j'ai eu un ordi où j'ai le ventilateur qui a lâché, alors est-ce que c'était parce que je l'avais...
Le pire, c'est qu'un Mac d'occasion que j'avais acheté à l'époque, un 6400 qui provenait d'une maison où le propriétaire était fumeur.
Ah, ça c'est... Oh là,
ça colle.
Oh là là là.
Poussière collée, quoi.
Horrible.
À la nicotine.
Et puis en plus, le ventilo, du coup, il te fait circuler ça. Après, il te le recrache.
Ah, c'est ça. Mais ça sentait le tabac à froid de fou.
Et moi, je voulais revenir un petit peu parce que t'as pas traduit entièrement ta chronique là. Et sur overclocking, on parle de surcadençage, du coup, en français. Et jumpers.
Allez, Jacques Toubon sort de ce corps.
Alors, le jumper, je l'ai traduit, c'est un bitonio.
Un bitonio
qui fait contact entre deux broches.
Voilà.
Bon, moi, je pense qu'on peut traduire par cavalier aussi.
Bon, il va se calmer, all good, là, parce que...
Ouais. Ah ouais, okay. Mais bon. Eh bien, merci, Roudoudou, pour ton sujet qui nous a... pas manqué d'air. Hein,
ah,
pour
bah, il
le
a
coup.
Bien dépoussiéré le. Ouais.
Ah, là, c'est clair. Mais j'aurais bien aimé ressentir du ventilo. Parce que dans Radio Méga, effectivement, là, pour le coup, nous n'avions pas de ventilateur pour faire ce sujet.
On va vite se dépêcher de finir
aimé.
L'émission, je crois.
Ah oui. Ouais, ouais. Mais je crois que Medbel, lui, par contre, lui, il a de la chance parce que oui, on l'entend.
On l'entend ton ventilo, Medbel.
On l'entend, ton ventilo.
Ah, c'est ça, la technologie.
Ah, toi, tu en as des ventilateurs. Pas nous, hein. Nous, voilà. On est punis.
Ah, je croyais que c'était sa sorbetière, moi.
Peut-être. À savoir.
J'ai pas aussi.
Avec toutes ces chaleurs, hein, c'est pas faux. Hein.
Ouais, c'est pas faux.
Eh bien,
c'est pas faux.
On écoute une petite championne.
Ouais.
Et on se retrouve après pour l'agenda.
Ah bah ok.
Allez, à tout de suite. Alors, on dit 8 bits of scissor by Wu to Wu.
W-O-T-W. Ouais.
D'accord, donc c'était RSI. Donc, c'était la quatrième musique proposée, enfin qui a été proposée à la révision, qui a terminé quatrième. Une chiptune aussi. Et surtout, très important, cette musique a illustré l'invitro pour aller à la Roma.exe, une démo partie italienne.
D'accord.
Si, il y avait une démo partie italienne qui a été proposée à la révision, je vous assure.
Ah, ouais.
Et franchement, leur démo, elle poutrait du sapin.
On va aller regarder, parce qu'il y a les liens, du coup.
Oui.
Hein
sur underscore.radio.fm.
Voilà.
Vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et on va passer à l'agenda.
Zaza.
Flo!
Et c'est un rappel,
oui.
Un rappel pour les Atari Days à Nancy. Non, Atari Days Nancy.
On appelle ça l'ADN.
Mais
à Nancy.
Nancy.
Hein.
Ouais.
Près de Nancy.
Ouais. C'est à Tontonville.
Ah oui, mais du coup, c'est pas Nancy alors.
Et non, c'est pas Tontonville. Ah, et en fait. Si.
Ils font comme la SNCF.
Et Tontonville, c'est. Tourtel.
Tutut
Non, Tourtel. Tu sais, oui, la bière.
Oui, tutut.
La bière Tourtel.
Oui.
L'alcool.
Ouais, ouais, c'est ça.
Okay. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est du coup.
Oui, bah, si tu veux.
C'est une convention, principalement Atari.
Ah.
Vous n'en doutiez pas, hein.
Non, j'aurais pas deviné, dis donc.
Il me semblait bien. Mais parfois, quelques Amstrad quand même.
Oui, parce Amiga que JB, il est pas chiant, hein. Il accepte tout le monde.
Ah, voilà. Donc Apple, Nintendo, Sega.
Oui, à partir de voilà.
Ouais. Ok.
Bon, ok.
C'est payant sur inscription le 1er et le 2 août. C'est salle du football de Tontonville.
Et oui.
C'est près de
Nancy. Ah non, c'est un autre sketch.
Oui, comme
ça.
Quoi. Et d'ailleurs, ils pourront vous proposer de boire un café avec un Atari qui vous le fait couler.
Ah ouais.
Et ouais.
Un autre rappel
encore... Oui.
Ah. Encore un rappel. Quand le camp chaton. Ce sont les 10 ans du collectif du jeudi 13 au lundi 17 août 2026 à 3.
À 3
À 3 dans l'aube.
À 3 dans l'aube.
Soirée libre bidouille. Ce rendez-vous mensuel propose d'accompagner les utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans la résolution de leurs problèmes informatiques.
Ah.
Hmm.
1080 par.
Ah ben là après.
Non, ça c'est la définition, c'est pas la résolution.
C'est pas la résolution.
On a déjà parlé
et
en plus.
Non.
Ouais.
Et mais c'est bon. Quand alors?
Eh ben c'est mercredi 15 juillet 2026 à partir de 18h.
Et c'est où?
C'est à l'espace Autrement. 1 rue Désiré Bancel à Lamastre.
Ah, c'est en Ardèche.
Ouais. Ouais. Sinon, si tu peux aller aussi en Allemagne. Hein.
Ah, bah oui.
Medbel.
Encore un rappel. Évoque la démo partie. Pensez à regarder l'Invitro.
Ouais, l'Invitro, elle est sympa.
On vous laissera les liens. Payant sur inscription du 21 au 23 août à Cologne, en Allemagne.
Et là, ils ont de l'eau à Cologne.
Ah
oui, chaud.
Enfin, c'est de l'alcool en fait, mais.
Et ils ont peut-être moins chaud.
Je sais pas.
Du lien à des liens. Et même, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper?
Eh ben, oui, ben, c'est les vacances. Enfin, pour ceux qui ont droit.
Hein, oui, parce que moi, j'ai pas de vacances.
Et on risque de s'ennuyer pendant les vacances. Moi pas, mais voilà. Et courage aux autres quand même. Mais sinon, pour ceux qui pensent qu'ils vont s'ennuyer, les vidéos des JDLL, les journées du logiciel libre, sont disponibles.
Sur PeerTube.
Oui, en plus. Les vidéos et supports des présentations et tutos des journées du réseau français de recherche reproductible, c'est plutôt la science, tout ça, des 19 et 21 mai, au 21 mai, sont en ligne. Donc, il faut suivre dans le menu programme. Chaque jour, il y a les liens sur les vidéos. Les vidéos des confs Mixit sont aussi en ligne. Il y a de l'IA, du Kubernetes, de l'accessibilité, concept design, JavaScript, même du bénévolat. Donc, c'est sur le site et aussi sur YouTube dans la playlist dédiée. Voilà. Alors, plutôt de l'audio ce coup-ci. La série...
Sur France Culture.
Oui, la série Les Mondes et les Peuples de la Fantaisie est disponible sur France Culture. Donc, il y a 4 épisodes. Alors, du merveilleux dans le contemporain, Inventer des mondes, L'Empire des jeux et Puissance et pouvoir d'un genre. Donc, c'est une série de Romain de Bec de Lièvre et vous pouvez entendre Anne Besson, Catherine Dufour, Vincent Ferré, William Blanc et bien d'autres. Je connais pas, mais ça a l'air super sympa. Voilà. Un peu de lecture aussi, donc le nouveau rapport de l'ex-CNNUM, le Conseil National du Numérique, voilà, c'est maintenant le Conseil à l'IA et au numérique, parce qu'il faut mettre de l'IA partout.
Aïe.
Voilà, donc le rapport intitulé « Souveraineté numérique, de l'urgence d'organiser la coopération entre le public, le privé et les communs numériques », tout un programme. Le livre, encore, « Vanishing Culture, a report on a fragile cultural record » est disponible en téléchargement. Et à l'achat papier, donc il parle des sites d'archivage en ligne qui disparaissent, des jeux injouables, des archives personnelles illisibles, donc toutes ces problématiques-là. Si vous préférez les jolis dessins, le manuel complet d'époque d'IBM sur les symboles des organigrammes logiciels avec des patrons pour dessiner les vôtres, si, c'est sympa, seulement 36 pages, ça va, ça peut faire la semaine. Un autre aussi avec de jolis dessins, Making Software, un livre illustré en ligne sur le fonctionnement interne des logiciels. C'est assez sympa.
Et enfin ?
Et bah, si vous avez toujours voulu apprendre à coder sur Amiga sans savoir où commencer, le dépôt Amiga Bootcamp vous propose toute une documentation classée par thématique et bibliothèque système.
Ça, je crois que je vais envoyer ce lien à quelqu'un.
Voilà. Hein, vous allez pouvoir...
C'est important.
Écrire du logiciel pour Amiga. C'est cool.
Comme quoi, hein.
Faux.
Rien n'est impossible.
Voilà.
Eh bien, merci Mému pour ces fameux liens qui nous vont peut-être nous occuper cet été. Astrologique, frossons cette boule. Roudoudou, qu'est-ce que tu nous as trouvé ?
Libriste, c'était l'été, évidemment, et j'ai compté en déboguant mes nuits de code.
Pas mal.
No life. Ça y est, pour une fois, j'ai prévu des vacances. Par contre, je ne sais toujours pas où. J'ai pas eu le temps de chercher.
Nerd, ne dites plus ta mignonnerie me fait l'effet d'un coup de poing. Dites hyper cute.
Télétravailleur, rassurez-vous. Vous aurez au moins droit à des télévacances. Vous pourrez changer le papier peint de votre ordi pour les Seychelles ou Tahiti.
Ah.
Technocritique, c'est plus Nvidia, c'est Avid Dia.
Ah. Oh oui. Oh, une chanson. Ah.
Technophile. Toutes ces barrettes, numa numa, les processeurs tournant SMP, ce beau serveur c'est là-bas. Oui, le numa c'est le non-uniform memory architecture. Donc c'est voilà.
Chouette.
On apprend des trucs en plus des limites dans cette émission.
Waouh, et c'est sous l'hymne d'une chanson Dragosti. Dintei.
Ouais, c'est... Oui.
Dragosta Dintei.
C'est un truc balte ou je sais pas.
Ça veut dire flirter sous le tilleul.
Ah oui, d'accord, t'es allé voir. Okay.
À l'heure où on parle, je parle... Je pense que Dalida n'a plus de cheveux non plus.
Ah oui. Ah bah, du coup, ça lui a mis un vent, hein, tout ça. Hein.
Oh là là.
Pas à nos auditeurs, parce que nos auditeurs vont nous retrouver tout cet été.
Bah ouais.
Bah en rediff en fait.
Ah oui, bah faut qu'on s'en occupe, hein.
Oui.
Faut qu'on prépare la playlist.
Oui, oui, à partir de, bah, de demain. Demain, c'est la grille d'été sur Radio Méga.
Et bah voilà.
Et oui, alors pour nos auditeurs qui sont sur Westrack, Radio Primitive ou bien sur Radio Cactus ou Fréquence Mutine, eh bien la grille d'été va commencer chez Méga. Et du coup, bah, on va vous proposer de réécouter nos émissions. On va faire une petite sélection pour que chaque semaine, vous ayez un petit underscore que vous n'ayez pas encore écouté.
Wow.
Ce sera l'occasion de découvrir certains épisodes avec un peu plus de temps pour certains, car... Il y a les vacances.
Ah bah pour ceux qui ont droit encore une fois.
Ah, on est bien d'accord.
On est bien d'accord. Voilà, puis sinon vous pouvez nous retrouver sur underscore.radio.fm aussi.
Voilà.
Voilà.
Ou sinon vous recherchez ça dans les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver.
Voilà.
Eh bien
ils vont nous trouver.
Mais oui. Mais non.
Je voudrais faire une petite dédicace à un nouvel auditeur.
Ah bah voilà.
Hein, une petite dédicace à Boubistou, voilà, qui se reconnaîtra.
Voilà,
ok.
J'espère bien.
Merci à lui pour son écoute jusqu'au bout de ce podcast.
Oui, ou de cette émission. Tout dépend où il nous écoute. Oh non, c'est la fin.
C'est la fin.
Ouais.
C'est la fin de l'année.
L'été.
Non, la
c'est
fin
bien.
De la saison.
Ah oui, c'est la fin de la saison. Bah, on va peut-être pouvoir aller
dormir.
Se baigner.
Au frais, voilà. Sous la clim.
Ah ouais, là.
Mais, la clim, c'est pas bien. Mais... Oui.
Un orteil dans l'eau chaude.
Ah oui, un orteil dans l'eau chaude, il a dit.
Et les autres avec des glaçons ?
Ah oui, peut-être.
Voilà. Je sais pas. C'est... Ah, les oui. Belges, ils font des trucs bizarres quand même.
Je sais pas, ils mangent des frites.
Oh,
une fois. Mais une fois.
Non, des... Pas qu'une seule fois.
Hein. Ça existe, ça existe la glace à la frite, Medbel ?
Ouais, ça existe.
Sérieux ?
Ah, il faut que je teste. La prochaine fois que je vais au Fosdem, il faut que je teste alors. Parce que...
Ah ouais, comme quoi ?
C'est de la glace au sein doux.
Oh là là !
Saveur poulet.
Avec du sucre.
Rassurez-vous, il ne souffre pas.
Vous dites ça comme si c'était bizarre, mais on a bien des glaces au schtroumpf, je trouve ça d'autant plus bizarre, quoi.
C'est pas faux.
Ouais.
Eh bien, oui, c'est la fin de l'émission.
Bah ouais, mais du coup, on a... Alors, ça fait 3 semaines qu'on râle, qu'il fait trop chaud et tout, et du coup, on n'a plus envie d'arrêter, parce que du coup, mais voilà.
Non, parce que c'est la fin, là.
Ouais, mais du coup, on va se reposer un peu cet été. On va peut-être rédiger des sujets en avance. On va peut-être essayer de trouver des outils pour être
les
un peu plus
outils.
Productif. Enfin, voilà, puis se reposer. Et puis se reposer aussi.
Ouais, faire des belles rencontres.
Aussi.
voilà. Pour nous faire des nouveaux sujets.
Enregistrer des interviews, peut-être au camp Interac, ou peut-être au camp Chaton, si j'y vais, je sais pas encore.
À voir. Allez. À septembre alors.
À l'année prochaine.
Enfin, à la prochaine saison. Prochaine.
Bye bye.
Salut.
Salut.
Bye bye.
Bonjour Yvan, bonjour Nuno, bonjour Nathalie, bonjour Flo.